La matière, c'est la vie aussi.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches quand elles passent. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy.
Parce qu'on veut transformer la vie pour un monde.
Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. Entre les hauts plateaux de l'Amérique centrale et l'océan Atlantique, le long de la vaste virgule du golfe du Mexique, un monde de formes et de foi, un lacis de mythes, de rituels, de temples, de villes et d'objets s'inventa, voici près de 4000 ans. C'étaient les Olmèques. Origine somptueuse, générant 3 millénaires de création dans diverses cultures, tout influencé par cette esthétique inaugurale. Les Olmèques, dont les vestiges font deviner une civilisation puissante au cœur d'un espace brassé par des populations hétérogènes, laissa son empreinte sur les expressions des sociétés contemporaines et ultérieures. L'univers que nous révèle l'art qu'ils produirent et les ruines qu'ils laissèrent suggèrent une organisation théocratico-militaire, sévère, inquiète de la succession des jours, des saisons, des récoltes. Les œuvres portent une énergie expressive débordant l'idée de beauté, chaque élément paraissant le chiffre d'une signification et d'aspiration qui nous sont pour l'essentiel dérobés, en dépit des efforts consciencieux des archéologues, guidés par l'interprétation des pictogrammes encore mystérieux. Pourtant, si une stupeur est provoquée par l'ambition des temples et de leurs pyramides, des jeux et des sacrifices, des parures inouïes, un charme envoûtant se dégage de ces surfaces de pierre, de jade, de serpentine ou de granit patiemment poli. La conviction que là, comme à Sumer, comme en Crète, comme en Chine, est apparu un art, indifférent aux idées de l'Occident qu'il ignorait et qui, s'il nous dit peu de lui, nous révèle beaucoup de l'homme. Nous voici donc, en immersion, transportés à l'origine du fabuleux répertoire de l'art précolombien. Pour en parler, j'ai la chance de recevoir deux des commissaires de l'exposition que le Quai Branly consacre à cette sculpture première et dont le titre est « Les Olmèques et les cultures du Golfe du Mexique ». Dominique Michelet, vous avez été surtout responsable du catalogue, vous êtes archéologue, mayaniste dit-on, mais un grand spécialiste de l'Amérique centrale, mais plus largement que cela, de l'Amérique en général précolombienne.
Tout à fait.
Voilà, bienvenue.
Merci.
Gros catalogue, beau catalogue, très intéressant et je vais avoir des tas de questions à vous poser. Steve Bourget, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Vous êtes le responsable des collections Amérique au musée du Quai Branly Jacques Chirac et vous êtes commissaire, co-commissaire de l'exposition dont nous allons parler à l'instant. Et d'ailleurs, le Quai Branly Jacques Chirac a maintenant un programme assez continu sur ces grandes questions précolombiennes puisqu'il y a eu d'autres expositions antérieures.
Oui, tout à fait. Les expositions sur l'art précolombien, ou du moins sur les cultures précolombiennes d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud font partie de la tradition des expositions du Quai Branly. Donc, ce sont les expositions que nous aimons faire. Moi, je suis archéologue sur le Pérou, donc ce sont des expositions qui nous permettent de montrer des cultures anciennes, méconnues souvent du public européen, français aussi. Donc, c'est vraiment très agréable. Et c'est aussi les expositions qui sont les plus visitées au musée. Donc,
j'ai remarqué qu'elles étaient visitées là avec énormément d'attention, mais il est vrai que c'est un art crypté, peut-on dire, et qui demande une très grande attention, Dominique Michelet.
Oui, certainement, non, pour rentrer dans les subtilités de ce qui est représenté. Mais si on parle des premières pièces, des plus anciennes dans le monde olmèque, c'est surtout de la figuration humaine. Et alors, simplement, celui qui la voit comme une simple figuration humaine ne se rend pas compte exactement du sens de toutes ses œuvres. Les têtes colossales, par exemple, puisqu'on est accueilli dans le hall du musée du Quai Branly par une des 17 têtes colossales, il y en a 17 connues à ce jour.
La première a été trouvée vers quelle époque ?
1860, et des poussières. Donc
ça veut dire que les Olmèques, on ne les connaît pas depuis très longtemps ?
Absolument pas, non.
C'est une conception, une découverte d'une civilisation originelle récente.
Tout à fait, et quand on la découvre à la fin du XIXe siècle, les premiers écrits parlent d'une allure éthiopienne de ces personnages, alors que ce sont des Américains. Il n'y a rien à voir avec l'Afrique, bien entendu. Non, mais donc on voit des personnages assez simples, mais pour revenir à cette tête, on a mis du temps à se rendre compte que ça devait vraiment représenter des portraits de chefs locaux. Et ça n'est pas un hasard si on en a 10 à San Lorenzo Tenochtitlan, qui est la première des grandes capitales, qu'on en a 4 à La Venta qui suit, qu'on en a ensuite à Tres Zapotes.
Donc là, vous parlez des 3 grandes capitales successives voilà. De l'histoire Olmec, en fait,
hein,
qui, sur 1200 ans à peu près... s'est développé un peu moins?
Peut-être pas un peu plus.
Peut-être un peu plus.
Parce que un des grands progrès récents dans l'archéologie de cette région, c'est d'avoir pu vieillir un certain nombre de données et de réalités. On a découvert des choses étonnantes, spectaculaires et qui ont pu être datées. Parce qu'il y avait beaucoup de matières végétales en particulier. Et les premières représentations qui nous montrent un début de l'art Olmec, c'est transféré dans nos dates à nous, 1700 avant Jésus-Christ. Donc de 1700 à 400 avant Jésus-Christ, vous voyez, ça fait assez long.
Ça fait 1300, oui. Steve, lorsque j'ai introduit cette émission, j'ai laissé entendre que c'était un art originel, c'est-à-dire le moment où s'inventent les canons de l'art précolombien. Est-ce que c'est juste?
Oui, c'est juste dans la mesure où, en fait, ce qui s'invente à ce moment-là, c'est surtout une matérialisation du pouvoir. Donc le pouvoir, les sociétés se complexifient. La société Olmec semble avoir une longueur d'avance, je dirais, sur les autres groupes qui l'entourent. Et ils vont littéralement pétrifier dans la pierre des notions symboliques, religieuses, politiques, qui vont marquer d'autres sociétés contemporaines, mais aussi d'autres sociétés plus tardives, je dirais.
On dirait que, en tout cas jusqu'aux Aztèques, c'est à peu près ce répertoire-là qui va être transformé, habité, mais c'est ce répertoire-là qui aura été la source d'inspiration principale et des panthéons et des formes.
Oui, dans la mesure d'un répertoire ancien, c'est-à-dire qu'il y a un répertoire toujours dynamique, nouveau dans chaque société, mais il y a une notion du pouvoir qui, à mon avis, revient avec beaucoup d'insistance dans les sociétés mésoaméricaines, mais qu'on retrouve aussi en Amérique du Sud et qu'on retrouve même dans des sociétés polynésiennes, c'est-à-dire que le pouvoir aime bien camper son origine dans le passé. Le concept d'ancienneté est très important. Donc, il y a des dieux, appelons-les comme cela, mais il y a des représentations, il y a une vision du monde qui est ancienne et qui est représentée comme telle. C'est-à-dire le pouvoir va dire, mon pouvoir, il vient d'une période très ancienne et les dieux, de certains dieux dont le dieu, entre autres, de la pluie, c'est un dieu qu'on retrouve chez les Aztèques sous le nom
c'est
de Tlaloc, bien sûr, ou de Tchac, dans la région d'études de mon collègue. C'est un dieu qui a ses racines probablement dans la période Olmec.
Y avait-il, Dominique, y avait-il des Olmecs avant les Olmecs? Comment ça a commencé, l'aventure?
Oh, très certainement, oui. Sur les sites Olmecs qui ont été travaillés récemment, il y a des couches ou à proximité des couches anciennes qui sont bien plus vieilles que ça. Donc, il y avait de la population. Mais c'est vrai que on voit se matérialiser... Pour ce qui est de certains éléments, peut-être les éléments religieux d'ailleurs d'abord, vers 1600-1700 avant Jésus-Christ, et ensuite des expressions de pouvoir, comme disait Steve, et là on est plutôt dans les années 1200. Et donc tout ça, ça n'est pas évidemment du jour au lendemain, il y a des populations locales qui ont une culture qui se met en place, qui est c'est une région à la fois hostile et extrêmement riche. On a des vestiges qui nous montrent la domestication d'un certain nombre de plantes. C'est bourré de cours d'eau qui sont des voies de circulation extraordinaires. Alors, le seul risque, c'est l'inondation dans ces régions-là, en tout cas dans les parties de plaine. Mais c'est un très bon terroir et les populations sont là depuis plusieurs millénaires, certainement. Et c'est petit à petit qu'effectivement, on voit apparaître des éléments qu'ils partagent.
Mais ce qu'on appelle les Olmecs, à ce moment-là, donc on est vers 1500, grosso modo, hein, avant Jésus-Christ, ce sont des populations hétérogènes qui se coagulent et qui ont une langue commune, ou c'est dizaines de langues et de populations différentes qui sont organisées par un pouvoir politique.
Dans le secteur strictement olmèque, c'est-à-dire autour du massif qui borde la mer, le massif volcanique des Touchtlas, soit au nord, soit au sud, donc dans les plaines qui entourent ce massif, et qui encore une fois sont gorgées d'eau, on a tendance aujourd'hui à penser que c'est un seul et même groupe qui devait être là. Mais il est voisiné avec pas mal d'autres. Et surtout, alors postérieurement, il va y avoir l'arrivée de beaucoup de populations. Et la carte linguistique est extrêmement complexe au moment de l'arrivée des Espagnols au XVIe siècle. Peut-être qu'à date ancienne, ça l'était un petit peu moins, parce qu'on sait que beaucoup de populations ont été attirées par ces régions-là, qui étaient prospères, finalement. C'est des régions, enfin, je parle pour l'ensemble de la côte du Golfe, mais c'est des régions où on n'avait jamais faim. Ça avait cette réputation-là.
Oui, c'est vrai. Le poisson est abondant, la chasse est abondante,
on cultive. Alors, encore une fois, on peut perdre sa récolte quand il y a trop d'eau, quand il y a de l'inondation, mais quand les Aztèques traversent leur grande crise alimentaire au milieu du XVIe siècle.
Ah, mais là, on est. 16e siècle avant.
Le 15e siècle avant. Bien après. Que font les populations du bassin de Mexico? Elles vont se vendre comme esclaves sur la côte du Golfe. Parce que sur la côte du Golfe, on n'a pas faim.
Oui, on est sûr de trouver. Hélène Losseur, notre comédienne, est-ce que vous voulez bien nous lire la description que fait de cette région, au fond, Octavio Paz?
Il a fallu attendre l'époque de la Seconde Guerre mondiale pour que débutent de véritables fouilles qui fassent sortir de l'oubli la culture des Olmèques. C'est dans l'une des régions les plus inhospitalières du pays, en bordure du golfe du Mexique, dans les basses terres tropicales de la côte orientale, que la première grande civilisation méso-américaine vit le jour et s'épanouit avec une surprenante vigueur. Malgré l'omniprésence des marécages, ou précisément en raison des grasses terres d'alluvions généreusement arrosées, la culture olmèque connut, dans ce cadre apparemment hostile, un brillant essor dès le milieu du deuxième millénaire avant notre ère. Elle occupe les régions des états actuels de Veracruz et de Tabasco. La chaleur, la forêt vierge de type amazonien, les zones inondées et les interminables méandres des rios Tonalá, Coatzacoalcos, San Juan et Papaloapan, descendant des sommets de la Sierra Madre orientale, forment un environnement surprenant pour l'éclosion de sociétés urbaines développées. Celles-ci inventèrent l'architecture, la sculpture monumentale, la céramique élaborée et les arts de la pierre dure.
Vous êtes sur France Culture et vous écoutez L'Art et la Matière et nous sommes en train de parler de l'exposition qui vient d'ouvrir au musée du Quai Branly sur les Olmèques, société originelle très passionnante et qui est en train, grâce à vous deux, Dominique Michelet et Steve Bourget, de se constituer sous nos yeux. Et quand elle se constitue, elle impose donc une sorte de langage. Cette société Olmèque, Steve, qui se constitue à ce moment-là, est très autonome ou est-ce qu'il y a d'autres sociétés voisines qui s'interpénètrent? Est-ce qu'il y a des échanges avec les hauts plateaux, avec les Andes, avec l'océan Pacifique qui est de l'autre côté de la Mésoamérique?
Je crois que les humains sont toujours en contact. Ouais. Les humains aiment les humains. Et la région du Golfe est particulièrement propice à ce genre d'échange, certainement durant la période olmèque, puisque c'est une région qui est relativement restreinte avec l'isthme de Tehuantepec. C'est une région qu'on doit traverser si on veut se rendre vers l'Amérique centrale et si on veut monter vers les hauts plateaux mexicains. Donc, c'est une région qui est traditionnellement et qui était certainement anciennement habité par de nombreux groupes en contact. Et on va trouver assez rapidement les effets du, appelons-le le phénomène olmèque ou un phénomène qui est probablement certainement politique, certainement aussi religieux, mais on va trouver ces effets dans d'autres groupes assez rapidement. Par exemple, un site qui se situe près de la ville actuelle de Mexico dans l'état du Morelos, qui s'appelle Zazacatla, va va adopter des personnages qui sont associés aux personnages déifiés, je dirais, des Olmèques. Donc, ils vont faire de la sculpture sur pierre qui évoque de très près le style Olmèque, mais ce ne sont pas des Olmèques. Donc, on voit tout de suite à 600 kilomètres au nord des gens qui commencent à s'aligner et ils s'alignent à la fois politiquement et religieusement vers ces gens. Et ma directrice de thèse, Louise Ezult Paradis, qui était une grande amie de Dominique. D'ailleurs, Dominique a été mon professeur à l'Université de Montréal en 82. Donc, ça nous ramène très loin, presque à la période Olmèque. Et Louise Ezult était une spécialiste de la côte pacifique, surtout du Guerrero, et elle a documenté la présence des traditions olmèques et des traditions religieuses dans des contextes domestiques autour de 1100 ou 1200 avant Jésus-Christ dans la région pacifique. Donc, vous voyez que les Olmèques sont, comme je me plais à le dire, bons à penser, et il est très bon de s'aligner sur ce système, paraît-il, à cette époque.
Alors, vous parlez du style Olmèque. Alors, pour les amateurs comme moi, c'est une esthétique qui apparaît et qui a quelques traits caractéristiques. Tout à l'heure, vous parliez, Dominique, des très grandes têtes qui ont été découvertes, comme celle que l'on voit à l'entrée du musée du Quai Branly, qui fait quoi, 7-8 tonnes, j'imagine.
À peu près. 4,6 tonnes.
4,6. Bon, ça
dû être pesé pour l'installer.
Une aventure pour pas qu'elle passe au travers, évidemment.
Plancher, oui.
Hein, parce qu'il y a des réserves à l'étage du dessous, donc il faut faire attention. On voit très bien ce nez épaté, cette bouche épaisse, etc. Mais ce qui est caractéristique pour ceux qui ne savent pas reconnaître un objet olmèque, il y a une façon très simple, c'est la bouche. La bouche est si caractéristique et visiblement cette caractéristique a un sens. Et j'aimerais savoir, si vous le voulez bien, Steve et Dominique, cette bouche tombante qui évoque un animal particulier, quel sens a-t-il ?
Je veux pas faire mon professeur, mais il reste que
c'est le moment néanmoins. Hein?
les systèmes de représentation anciens servent un discours, un but, qui représente une certaine cosmovision du monde. Donc, il y a toujours un certain degré de contiguïté entre les groupes qui assure le monde olmèque et les groupes de pouvoir qui les dirigent. Et les systèmes de représentation que nous voyons, dont la fameuse grande bouche olmèque, font partie en fait d'un code que tout le monde partage, que tout le monde connaît très bien et qui est répété avec beaucoup d'insistance. Donc, quand vous comprenez bien les éléments du code, vous allez retrouver ce code un peu partout. Donc, il y a des éléments qui relèvent d'une vision du monde. En partie, c'est une qui va toucher à l'écologie. Donc, il va se former une forme d'écologie rituelle dans laquelle on va utiliser certains animaux, mais plutôt l'idée de l'animal plutôt que l'animal comme tel pour représenter des concepts comme l'immortalité, la régénérescence, la fertilité. Donc, par exemple, la grande bouche édentée qu'on voit souvent représentée chez les Olmèques d'après les études qui ont été faites, puis d'après un peu les amusements que je fais quand je regarde un peu l'iconographie, semble associée au monde amphibien. Associée aussi au monde des félins, probablement le jaguar. Donc, pour cette partie-là, on voit une certaine relation entre les deux. Et il y a d'autres éléments.
Entre les deux, parce que je suis surpris de ce que vous dites, parce que le jaguar, effectivement, on comprend assez vite dans l'exposition, mais on le sait un peu, c'est une société du jaguar, d'une certaine façon. C'est un animal d'une puissance et qui a créé un attachement très particulier, dont vous donnerez le sens. L'amphibien, on le voit apparaître, par exemple, sur les ceintures de jeu, qui doit avoir un autre sens. Et ce que vous nous dites, c'est que cette bouche, que je pensais être une bouche de jaguar, est une bouche qui mêle les deux.
Dans
référence.
Peut-être qu'elle les mêle parce que nous comprenons mal ce que nous regardons. Mais dans certaines scènes, il est, pour moi, du moins, mon collègue sera peut-être pas d'accord là-dessus, mais il y a des éléments nettement du crapaud. Pour certaines raisons, mais la raison et le crapaud se mélange au félin aussi. Hein, donc, il y a des corrélations dans les systèmes, et ça fait partie aussi de l'ensemble. C'est-à-dire, ce qui est bon à penser, ce n'est pas l'animal, c'est les éléments de l'animal qui construisent un monde symbolique, qui construisent en fait une entité avec des attributs surnaturels. Et pourquoi le crapaud? Mais le crapaud a toutes sortes de qualités. L'une d'entre elles, c'est que c'est un animal qui, à la vue, se régénère. il revient parce que sa peau se remplace. Donc, pour grandir, un crapaud va littéralement fendre, la vieille peau va sécher, l'épiderme sous cette vieille peau va se développer et quand il est prêt, la peau craque et le crapaud va littéralement avaler sa peau, sa vieille peau. Il va l'avaler tranquillement et il va terminer avec ses pattes qui pendent de chaque côté de sa bouche, un peu comme des vieux gants de vaisselle, je dirais.
Ça me fait penser à un personnage qui n'est pas Olmec, celui-là, ça me fait penser à Chipetotec, qui, oui, si on veut, là aussi, a une peau qui, oui, tombe.
Mais, enfin, mais là, c'est encore c'est volontaire. Hein. C'est un sacrifice.
Un sacrifice volontaire. Vous êtes d'accord avec ce que dit Steve?
Alors, je suis assez d'accord, mais je pense que malgré tout, on a toujours insisté, probablement trop, et là c'est là que je suis d'accord avec lui, sur la place du jaguar, parce que effectivement, on a commencé, alors même qu'on savait pas les appeler ces gens-là, on les avait appelés finalement les Olmecs, mais c'est un mot emprunté.
Qui veut dire?
Les gens du pays du caoutchouc, parce que
c'est important, parce que le caoutchouc va revenir dans les rituels.
D'accord. Mais si vous voulez, à un moment donné, quand on les avait pas encore appelés Olmec, on les appelait les gens du jaguar. Il y avait un mot qui les désignait. Bon, et c'est vrai que au tout début des études de cette région-là, on a beaucoup insisté sur la place du jaguar. Moi, je pense que le jaguar, même si les amphibiens sont bien présents, demeure essentiel. Mmh. Et l'entrée même de l'exposition nous le montre. On a affaire à quelque chose qui, pour moi, est un des éléments les plus spectaculaires de cette exposition. Vous avez en vis-à-vis deux couples, deux paires de sculptures assises toutes les deux, deux individus presque assis, pas tout à fait assis, mais sur leurs talons, qui sont deux hommes. Et ceux-là ne sont pas transformés, ils ont une allure tout à fait humaine. Et ils sont dans une position qui est la position qui va être systématique de toutes les représentations de dirigeants, c'est-à-dire assis, le corps penché en avant, avec un bâton probablement de commandement qu'ils tiennent devant eux. Et face à eux, il y a deux jaguars. Donc on a des jumeaux humains et des jumeaux jaguars d'une certaine façon.
Le fait que des jumeaux est probablement très important.
C'est tout à fait envisageable. En tout cas, on est accueilli dans cette expo par cette espèce de confrontation d'une paire d'humains avec une paire de jaguars qui n'ont pas exactement la même taille.
Il faut savoir qu'ils font 1m60, hein, donc c'est des grandes pièces.
Et tout ça a été trouvé exactement comme c'est exposé, c'est-à-dire vous avez les deux humains l'un derrière l'autre qui regardent vers l'est, et à l'est, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les deux jaguars qui regardent les deux humains. Donc on a... Alors, je veux dire, c'est incompréhensible si on ne pose pas la question du sens mythique, probablement, de cette représentation. Chez les Olmecs, il y a, sauf exception très rare, il y a très très peu d'éléments d'écriture jusqu'à une époque assez avancée, mais ça fait longtemps que le disent les iconographes, et ils ont bien raison, et nos collègues qui travaillent dans la zone aussi, bien des sens de la statuaire peuvent être abordés quand on regarde la disposition des sculptures. Les sculptures ne sont pas là au hasard. Si elles sont associées les unes avec les autres, c'est qu'elles ont du sens par rapport les unes aux autres. Et c'est exactement le cas de cette paire d'humains qui fait face à cette paire de jaguars. On est probablement là face à cette confrontation. À époque plus ancienne, on avait d'ailleurs trouvé des sculptures incomplètes, malheureusement, et qui sont pas venues d'ailleurs, où on a un accouplement d'un jaguar avec une femme. Donc il y a quand même cette espèce de relation privilégiée entre l'humanité et le plus grand des prédateurs du continent américain, le jaguar, qui était la référence par absolu dans le monde animal pour eux, qui est bien présente. Alors n'exclut pas du tout le fait qu'il y avait l'amphibien aussi.
Oui, absolument. Mais simplement, vous faites une interprétation de la position est-ouest des quatre sculptures. Est-ce que c'est la naissance et la mort, par exemple, l'ouest en général?
Alors, on est évidemment livré à faire des spéculations, mais on peut essayer de penser à ce qui suit. L'est, c'est quand même le lieu du lever du soleil. C'est ce qui est le plus proche devant nous, au petit matin, de l'inframonde.
L'inframonde, pour nos amis auditeurs, c'est le monde des morts.
C'est le monde souterrain, le monde dans lequel disparaît le soleil chaque soir pour renaître le matin à l'est. Mmh. Et ce monde-là, dans les populations postérieures, ça c'est très clair, très vite, c'est le monde des jaguars. Le jaguar, d'ailleurs, est un prédateur de la nuit. Donc, les humains qui sont face à des jaguars qui sont à l'est, c'est probablement des humains qui regardent le lieu d'origine d'où l'on vient, c'est-à-dire l'inframonde, puisque la vie vient de la mort, de toute façon. Et ça, c'est quand même... Alors, je pense que de ce point de vue-là, il y a probablement une piste, effectivement.
J'aimerais ajouter une chose sur les Azuzules, les quatre sculptures. C'est que les jumeaux, la position du corps des jumeaux est nettement la même position qu'on retrouve sur l'autel 4 de la Venta, qui était en fait un trône. Et sur la base du trône, il y a une grotte creusée dans laquelle surgit un individu qui tient ce bâton de la même façon que les jumeaux. En fait, cette position croupie, les mains vers le devant du corps, est associée à la sortie d'une grotte, en fait, de l'inframonde, si vous voulez, appelons-le comme cela. Mais c'est la même chose aussi avec la sculpture qu'on appelle le Seigneur de las Limaces, la sculpture qui accueille les gens quand ils arrivent tout de suite à l'exposition, où on voit un individu qui est assis en tailleur tenant une déité, un vieux dieu, peut-être le plus vieux dieu des Olmèques, dans ses bras. Cette sculpture est aussi identique à une sculpture qui est dans un autre hôtel de la Venta et qui montre encore une fois quelqu'un qui surgit en fait d'une caverne. Donc ce concept de l'arrivée de l'origine de l'intérieur du monde est quelque chose qui est systématiquement représenté dans la position même des dirigeants, dont la sculpture qui regarde les Azuzules, c'est un jeune dirigeant, une sculpture en pierre magnifique, et ce dirigeant est assis dans cette position. Alors, moi, je crois que les dirigeants s'assoyaient comme ça sur les trônes et ça signalait automatiquement aux gens qu'ils venaient de l'origine du monde, qu'à travers eux, en fait, passait l'origine du monde olmèque.
Alors, cette position, c'est presque une position du lotus, hein? C'est presque les jambes croisées, pas tout à fait?
Et ça devient très intéressant parce que... Non, pas du tout. Au contraire, les jambes croisées, ça dépend où vous allez avec le lotus. Si vous allez vers le bouddhisme...
Non, je vous assure que non.
Mais, sinon, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est que la position croisée, les jambes bien sous le corps, c'est une position, je dirais, parfaitement assise. C'est la position du pouvoir bien assis, c'est la position avec les jambes croisées. C'est ce que le dirigeant qui regarde les Azuzules fait. Mais les deux sculptures des Azuzules ne montrent qu'une jambe croisée et l'autre jambe est placée sur le côté. Ça, c'est une position qui n'a pas complété cette position assise, parfaitement assise. Et la sculpture du lutteur olmèque du Musée national reprend exactement la même position.
Alors, il faut savoir que c'est un des chefs-d'œuvre de l'exposition, ce lutteur qui fait à peu près 90 cm de haut et qui est d'un modelé d'une subtilité folle et qui a le corps légèrement en avant. Il a les pieds, les jambes, comme vous venez de le dire. Et un visage plutôt âgé et les deux bras en avant comme s'il était prêt à donner un coup de coude ou quelque chose comme cela.
Oui. Et lui fait partie d'une série de sculptures qui ont été étudiées par Ken Reilly, qui est un spécialiste de l'iconographie mésoaméricaine. Ken, qui est un collègue que j'ai eu le plaisir de côtoyer au Texas pendant plusieurs années, n'avait pas étudié la sculpture du lutteur olmèque. Il ne l'avait pas vue dans la séquence. Mais les autres sculptures nous montrent une transformation d'un humain en être jaguar. Un humain jaguar, si vous voulez. Donc, cette sculpture fait partie de ce système de transformation, ce qui nous renvoie aux jumeaux, vous voyez, ce qui nous renvoie tout de suite à la présence des félins regardant les jumeaux et les jumeaux regardant les félins.
Alors, vous dites beaucoup de choses et donc ça suscite évidemment en moi beaucoup de questions. Cette question de la transformation est une question qui évoque d'autres types de phénomènes plus chamaniques, plus qui sont les transformations rituelles, je ne sais pas comment dire, de négociations en tout cas avec les esprits que certains prêtres parviennent à faire. Mais je voulais revenir un petit peu avant cela sur la sculpture que vous avez décrite, qui est la sculpture qui est à l'entrée, elle est verte, me semble-t-il, non?
Oui, la serpentine.
Elle est en serpentine verte, absolument sublime. Il faut s'imaginer que cette déité qui est portée sur les genoux de cette sculpture est complètement flaccide, elle est flasque. Oui. Et elle est posée sur ses genoux presque comme un chewing-gum, si je puis dire. Elle est d'une beauté extraordinaire, avec des inscriptions et des traits qui donnent l'impression qu'il y a presque une comptabilité qui serait par là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais c'est très très mystérieux. Imaginez ce que serait une Pietà masculine avec un animal sur les genoux.
Si on veut, oui. Elle a été beaucoup commentée par différents collègues. Elle a même été la base d'une reconstitution du Panthéon, finalement, le mec.
Parce que Dominique Bouche, ce que vous voulez nous dire, c'est que elle résumerait le Panthéon?
Et c'est ça. C'est comme ça qu'elle était prise par certains commentateurs. Il y a déjà
une cinquantaine d'années.
Non, pas du tout. Je veux dire, on est loin d'avoir tout compris, mais vous avez parfaitement remarqué qu'il porte un individu qu'on retrouve d'ailleurs dans la statuaire ailleurs, totalement indépendant. Cet individu là qu'elle a sur les, qui est un enfant, qui est une déité, qui est ce qu'on voudra, mais totalement flasque, effectivement, soit morte, soit endormie, après tout. Et puis, ce qui est intéressant, ce qui a fait couler beaucoup d'encre, on parle des années 70, là, c'est que il a des tatouages sur le visage, ce prêtre ou cet individu assez jeune qui porte l'enfant ou la déité, mais il a des profils sur les deux épaules et sur les deux genoux. Et ça a été la base d'une hypothèse qui a consisté à dire, regardez, cet individu est porteur de la représentation des principales déités du monde olmèque. Et il y en a certaines sur lesquelles on peut être assez séduit. Sur le genou gauche, par exemple, vous avez un profil d'un individu avec un œil en croissant de lune. Et l'œil en croissant de lune, c'est l'œil fermé, en réalité, l'œil mort. Et notre collègue qui est à l'origine de cette hypothèse dit, dans les quatre divinités ou cinq divinités principales, il y a probablement une divinité de la mort. La preuve, c'est que sur les quatre gravures des articulations, on a ce profil-là.
Cette sculpture était, parce que nous la voyons là, dans un musée, posée à l'entrée, elle était où, en fait? Elle était dans quoi?
Elle était trouvée tout à fait par hasard, par des enfants.
Mais elle aurait été où? Elle aurait été sur un temple, dans une salle, dans un...
Il y a eu plusieurs hypothèses. L'une d'entre elles, c'est que c'était un peu un hôtel portatif. Ouais. On la transportait. Bon, on peut dire plusieurs choses, mais on n'en sait rien, en fait.
C'est merveilleux de ne pas savoir, non? Parce qu'on peut interpréter infiniment.
Oui, tout à fait.
Non, mais là, ce sont deux enfants qui jouaient dans un champ au football, par exemple, et qui ont vu une pierre sortir de terre et qui sont allés gratter un peu. Ils ont immédiatement appelé les parents. Mais enfin, c'est pas associé directement à un site connu. Enfin, il y a dans le secteur énormément de sites, mais elle a été retirée sans beaucoup de ménagement et avec perte du contexte, ce qui a été le cas d'ailleurs souvent au début de l'archéologie en zone olmèque. On a perdu énormément d'informations sur l'endroit où c'était. Et l'information sur l'endroit où ça se trouve, c'est porteur de sens sur la sculpture elle-même, évidemment.
Si vous me permettez, dans l'exposition, elle n'a pas été placée n'importe où.
Non, vous l'avez mis à l'entrée.
Il y a une raison très spécifique pour laquelle j'ai demandé qu'on la place à l'entrée.
Je vous demande pardon d'avoir dit ça, parce que c'est toujours vexant pour un commissaire de dire que vous l'avez mis n'importe où.
Mais c'est surtout une pièce qui, d'après moi, résume l'ensemble de tout le système symbolique olmèque. Si vous comprenez la sculpture de Seigneur de las Limas, vous comprenez tout. Le système symbolique des Olmèques, parce que vous y retrouvez à peu près tout. Vous y retrouvez quatre dieux, effectivement, qui sont placés, appelons-les des dieux, sur les épaules, oui, et sur les genoux. Si vous tracez des diagonales entre ces quatre dieux, vous obtenez une croix qui arrive au niveau du nombril, qui est le centre de l'individu, aussi bien chez Vitruve que chez Leonardo da Vinci. On retrouve cette plaque, ces quatre directions avec la croix sur le corps du dieu mou. Moi, je l'appelle le dieu mou parce qu'il est flasque. Il est un peu comme un bébé, mais en même temps, c'est un individu dont le corps, n'a pas d'os à l'intérieur. Il est trop ancien. Il fait partie d'un concept qui prédate l'invention de l'os. L'os est un truc curieux dans tous les systèmes religieux. Hein. Ouais. Il faut l'expliquer. La religion catholique, c'est trouver toutes sortes de trucs pour l'expliquer. Ouais. Ouais. Je crois que les Olmèques ont fait la même chose. Donc, nous l'avons placé là, au moins dans ce contexte, pour pouvoir donner aux visiteurs une première vue du système symbolique olmèque. Et elle vous reçoit aussi quand vous ressortez de l'exposition, parce qu'encore une fois, c'est probablement l'un des plus grands chefs-d'œuvre aussi de l'art statuaire mésoaméricain.
Alors, on va repartir dans quelques instants dans notre visite de l'exposition en choisissant deux ou trois œuvres sur lesquelles je compte beaucoup sur vos explications. Et pour reprendre notre souffle, si vous voulez bien, Hélène Losseur, nous nous dire un autre passage d'Octavio Paz.
L'art mésoaméricain est une logique des formes, des lignes et des volumes, en même temps qu'il est une cosmologie. La conception mésoaméricaine de l'espace et du temps est parfaitement étrangère au naturalisme gréco-romain et renaissant, basé sur la représentation du corps humain. Pour l'artiste maya ou zapothèque, l'espace est fluide. C'est du temps devenu extension. Et le temps est solide, un cube, un bloc. Un espace qui flue et un temps figé, deux pôles du mouvement cosmique. Convergence et divergence d'un ballet où les danseurs sont des astres et des dieux. Le mouvement est danse, la danse est jeu. Le jeu est affrontement, création et destruction. L'homme n'occupe pas le centre du jeu, mais c'est lui qui donne son sang. La substance précieuse qui fait se mouvoir le monde et par laquelle renaît le soleil et grandit le maïs.
Vous êtes sur France Culture, vous écoutez l'art et la matière et nous sommes en train de parler de l'exposition Les Olmèques et les cultures du Golfe du Mexique qui vient d'ouvrir au musée du Quai Branly Jacques Chirac et dans lequel sont réunis des chefs-d'œuvre que l'on n'avait jamais vus en France et qui sont absolument passionnants. J'ai la chance d'être avec, vous avez avec moi la chance d'être avec Dominique Michelet et Steve Bourget qui ont conçu, accompagné cette exposition et qui nous interprète quelques-uns de ces mystères. Et Dominique Michelet, je voulais vous poser une question. Au fond, vous aviez parlé tout à l'heure justement de l'importance du mouvement solaire, de son passage dans l'inframonde, etc. Je suppose que l'invention de la ville Olmec reprend cette organisation cosmique. Comment est-ce que s'invente et à quoi ressemble une ville Olmec?
On a encore assez peu d'informations là-dessus. On en a eu très vite sur la deuxième grande capitale, la Venta, parce que c'est une île dans une zone totalement inondable. Les monticules sont en terre, mais ils sont visibles. Donc, on a pu assez rapidement dresser un plan de la Venta et on s'est rendu compte que c'était, en tout cas, tout le centre est extrêmement organisé le long d'un axe nord-sud avec toutes sortes de bâtiments qui, effectivement, nous montrent une géométrie qui se met en place très vite. Enfin, dans cette partie-là du site, on parle de quelque chose qui débute vers 1000 avant Jésus-Christ et qui, probablement vers 800, était déjà complètement présent, fixé, y compris la pyramide qui est la seule qu'on connaisse à l'époque, une très haute pyramide au milieu de cette zone.
C'est la plus haute d'Amérique du Sud à cette époque.
Ah non, pas du tout. À cette époque-là, oui, probablement.
C'est la seule.
C'est la seule, surtout.
Ouais. Parce qu'on est avant Teotihuacan, avant Templo Mayor, etc.
Oui, avant tout cela. Mais pour ce qui est de la première capitale, San Lorenzo, on commence à avoir une meilleure vision des choses grâce à des fouilles réalisées par une collègue qui est à l'Université nationale autonome de Mexico. Et c'est plus compliqué. Il y a manifestement une zone centrale. Elle a tout à fait identifié une zone palatiale. Donc ça veut dire qu'effectivement qu'il y avait de la résidence d'élite à un endroit donné. D'ailleurs avec des choses très intéressantes, comme par exemple un atelier de taille de sculpture dans la zone palatiale. Autrement dit, la fabrication de ces grandes sculptures qui sont les emblèmes finalement de la civilisation olmèque, c'est quelque chose qui était fait dans la résidence même du chef et contrôlé.
Ça veut dire que les pierres étaient amenées pour être taillées, elles n'étaient pas taillées sur place puis amenées.
Elles étaient dégrossies.
On n'est pas dans une région pierreuse.
Non. On parle d'une distance d'au moins 60-70 kilomètres pour acheminer les pierres et encore plus à la Venta. Et ce sont souvent des pierres extrêmement massives. Donc on commence à voir ça. On a par ailleurs la connaissance aujourd'hui d'un certain nombre de plateformes qui sont des plateformes probablement de réalisation de rituels ça se représente c'est sous forme de monticule, mais quand on fouille, effectivement, on se rend compte que ça a l'allure d'une plateforme qui est associée éventuellement, parfois d'ailleurs, avec des sculptures, donc, et avec des dépôts d'offrandes. Donc on a toutes sortes de chances d'être face à des lieux où se pratiquaient des rites. Et puis, on a quelques idées aussi, maintenant. Il y a une très jolie reconstitution qui a été faite sur la base de... Alors, par extrapolation, bien sûr, sur la base de quelques quartiers qui ont été fouillés. Il y a des petites zones d'habitat. Il y avait de la population réellement qui habitait au sommet. Alors là, on est sur un plateau, on n'est plus du tout sur une île au ras de l'eau. On est sur un plateau qui, en partie, a été artificialisé, c'est-à-dire qu'il y a une éminence naturelle qui a été élargie pour avoir l'espace pour installer toute cette population-là. Mais on parle très certainement de milliers de gens qui habitent dans des petites unités résidentielles tout autour d'une zone centrale qui unit palais et zone de rite.
Donc la ville s'invente à ce moment-là, c'est une ville donc liturgique, on peut dire, d'une certaine façon, essentiellement.
En tout cas, la Venta, c'est sûr.
La Venta, c'est sûr, donc pyramide, et quelque chose dont on ne peut pas ne pas parler, parce que ça a créé des objets extraordinaires, je pense aux palmes, aux hachas et aux ceintures, les terrains de bal. Les terrains de jeu, il y en avait dans toutes ces villes.
Non,
non, pas à la Venta. Ben,
on les a jamais retrouvés. C'est ça le problème.
On a trouvé les balles. Non, on n'a pas trouvé les terrains de jeu.
Ces terrains que l'on voit, je pense par exemple à ce terrain de football, si j'ose dire, qui a ce nom prédestiné de Cantona.
Oui, mais on est beaucoup plus tard. Là.
On est beaucoup plus tard.
Il y en a des dizaines d'ailleurs à Cantona.
Ouais.
Oui, et donc, c'est probablement le site qui en a le plus.
C'est la fin de... C'est post-Olmec, c'est ça que
ah,
vous
oui,
voulez
dire? Très nettement post-Olmec.
Ah, parce
très,
que vous avez dans l'exposition, dans laquelle il y a les suites, vous avez une grande balle de caoutchouc qui est dans une des vitrines.
Oui, disons que cette balle est une reproduction des balles de caoutchouc qui ont été trouvées au site du Manati, El Manati, c'est-à-dire un lieu qui était une source d'eau rituelle, ou disons une source d'eau ritualisée par les gens de San Lorenzo. Et ils ont utilisé cette source d'eau pour y déposer des offrandes pendant une période de plusieurs centaines d'années, c'est-à-dire pendant au moins 800 ans, durant trois grandes périodes de déposition d'offrandes. Et stupéfaction absolue, à la fin des années 80, on trouve dans cette source d'eau des balles de caoutchouc que les Olmecs avaient déposées comme offrandes. Stupéfaction, puisqu'on croyait que l'invention de la balle de caoutchouc datait largement d'une période beaucoup plus récente. Donc les Olmecs, encore une fois, avaient défini un élément extrêmement structurant du monde mésoaméricain, c'est-à-dire la balle de caoutchouc, le caoutchouc lui-même.
Alors, dans le catalogue de l'exposition, il y a la reproduction d'une stèle absolument magnifique qui vient de Jalapa et qui représente un personnage sacrifié du coup duquel sortent des jets de sang qui prennent la forme de serpents géométriques et qui se nouent. C'est une beauté terrifiante.
Alors, mais... la pièce n'est pas venue. C'est,
non,
elle,
c'est
elle illustre
qu'elle
des essais.
Elle est dans le catalogue.
Elle illustre des essais du catalogue.
Et elle est, c'est une beauté atroce, mais c'est une beauté absolument sublime. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le symbolisme de ce jeu?
Alors, bon, il y a beaucoup de littérature là-dessus, mais pour revenir à la pièce que vous avez évoquée là, parce que c'est intéressant justement, et à des éléments qui seront partie de l'exposition en même temps, on a la chance d'avoir dans cette exposition, dans la partie post-Olmec, qui date du début de notre ère, des premiers siècles de notre ère, la totalité du mobilier funéraire d'une tombe de Cerro de las Mesas. Cerro de las Mesas, c'est la grande capitale de ce secteur-là, post-Olmec. On est donc dans ces premiers siècles de notre ère, et dans cette sépulture trouvée il y a déjà maintenant fort longtemps, on est dans les années 40, on a trouvé, et c'était vraiment un scoop à l'époque, un individu enterré avec beaucoup d'offrandes, un joug, justement, cette espèce de ceinture pétrifiée, en pierre donc, qu'on a depuis longtemps associée avec le jeu de balle, comme étant probablement la pétrification de la ceinture de cuir et de coton que devaient porter certains joueurs. Et alors, pour la première fois, on a un individu dont le corps est d'un côté et dont la tête est de l'autre. Autrement dit, on est là sur l'illustration du fait que le final du jeu lui-même était dans cette région-là, à cette époque-là, probablement la décapitation. Et ça, on va avoir d'autres exemples postérieurs. Donc, avec cette vitrine de l'exposition, on a certainement aujourd'hui la plus ancienne trace de l'association entre le jeu de balle et la décapitation. On sait que le jeu de balle était suivi de sacrifices qui pouvaient prendre différentes formes, mais la décapitation est une forme propre. Réellement à l'issue du jeu de balle. On ne sait pas qui était sacrifié.
Qu'est-ce qui rendait ce jeu si important? Est-ce que c'était la course du soleil qui était imitée par la balle? Est-ce qu'on sait quelque chose là-dessus, Steve?
Ça dépend des cultures, mais pour moi, disons, amusons-nous. Tiens, je vais vous raconter une histoire.
Amusons-nous.
Le concept du caoutchouc est une chose absolument qui est anodine pour nous, mais qui est une chose absolument inouïe dans les sociétés anciennes. C'est une matière qui rebondit, qui a une élasticité. Il n'y a rien qui rebondit dans les sociétés anciennes. Si tu jettes une céramique par terre ou un enfant, je ne ferai jamais cela, l'enfant ne rebondit pas, la céramique non plus, elle se casse. La balle rebondit, elle est dotée d'une énergie qui en fait partie. C'est un concept qu'on retrouve chez les Mayas, notamment qu'on appelle coulel. Il y a une énergie dans la balle de caoutchouc qu'on retrouve aussi dans le sang des humains, dans le cœur des humains. Et j'ai l'impression que ce concept de balle qui a une vie, un objet inanimé qui a une vie propre, parce que quand on la lance, elle va en fait continuer à sauter, à se déplacer, est éminemment lié à une idée du sacrifice qui est fondamentale, c'est-à-dire la sélection de la victime sacrificielle. La violence dans les sociétés modernes et dans les sociétés complexes préhistoriques n'est pas un problème. Le problème, quand on pratique le sacrifice humain, c'est d'avoir la bonne victime. Si on manque notre coup, si on tue la mauvaise personne, le sacrifice ne sert à rien. Les dieux ne sont pas honorés. Bref, on est passé à côté. La Bible est remplie de ces informations au sujet de la sélection nécessaire de la victime. Le jeu de balle, revenons dans mon histoire, si la boule de caoutchouc est dotée d'une énergie qui a été mise en mouvement par les dieux comme le soleil, bouge comme les dieux, comme les humains aussi. Mais cette balle, finalement, dans le jeu de balle, peut être aussi bougée par les dieux. C'est-à-dire, si vous mettez deux équipes qui s'affrontent, finalement, vous laissez la balle décider qui va perdre et qui va gagner, et qui va faire bouger la balle seront les dieux. Donc, à ce moment-là, la victime, finalement, a été sélectionnée à travers un processus éminemment divin, et ce qui fait de la victime parfaite. Ça ne veut pas dire, par contre, que les humains ne vont pas mettre le doigt sur la balle durant le jeu. Ce que je veux dire, c'est que quelquefois, on peut faire tomber la balle du bon côté, bien que les dieux, en même temps, vont être tout à fait satisfaits de la victime.
Alors, en l'occurrence, c'est pas le doigt, hein. Le doigt, c'est interdit. C'est la hanche.
Oui, la hanche. Donc, l'autre aspect aussi que je trouve intéressant, puisque c'est là-dessus que je vais terminer ma petite histoire, c'est le joug. Cette forme du joug, on l'a retrouvée dans cette tombe avec la tête qui était à côté de l'individu.
Mais imaginez pour les auditeurs, hein, donc c'est quelque chose qui doit peser. La représentation pétrifiée de ce joug doit peser dans les 15 kilos, 20 kilos, oui. Facilement.
Oui,
hein,
oui, oui, oui.
Et donc est en pierre brune très souvent, oui. Pas toujours mais très souvent. Oui. Et il est orné de figures et parfois de...
Pas toujours non plus,
oui.
Mais
souvent.
Oui, souvent.
Souvent.
Oui, mais souvent,
voilà,
aussi.
Souvent.
Et il est ouvert à un côté.
Voilà, comme un fer à cheval en fait.
Tout à fait.
Voilà.
Il y a deux contextes funéraires que j'ai retrouvés où la joue était placée au niveau de la tête de l'individu. Il a la tête dans le joue.
Oui.
Symboliquement, je crois que ce joue est en fait la caverne, elle aussi. C'est une forme de la caverne. Mmh. Et quand vous l'avez au milieu du corps pour le joueur, quand il a cette ceinture au milieu du corps, à mon avis, ça symbolise son état.
Vous êtes entre deux mondes, c'est ça que vous voulez dire.
Exactement. Ouais. Il est en deux mondes et il peut très bien passer dans l'inframonde s'il perd le jeu. Donc, à mon avis, c'est encore un concept tout à fait en continuité avec la proposition qui est déjà faite au début. C'est-à-dire qu'on peut entrer dans l'inframonde par les cavernes et ce joug, finalement, symbolise tout à fait cette entrée. D'où, en fait, les représentations très souvent sur les joues d'entités amphibiennes, dont des crapauds. À mon avis, on est tout à fait en continuité avec ce dont nous parlions au début de notre rencontre.
Et dites-moi, alors, parce qu'il y a... bon, cette interprétation est très intéressante, hein, je la trouve très riche, pleine de beauté aussi, tout simplement. On a la sensation qu'on est au bord des limbes et que l'entrée du Christ aux limbes peint par Mantegna ressemble à cette descente comme ça dans l'inframonde, et que ça fait penser. Il y a des correspondances comme ça que vous suggérez. Mais, pardon d'être hors sujet, évidemment, ça ne pouvait pas manquer. Il y a, justement, puisqu'on parle d'aller dans cet inframonde, il y a une sculpture, il y en a deux, je crois, mais il y en a une qui me plaît énormément, et qui est une sculpture, me semble-t-il, Ouastek, un personnage tatoué qui a derrière lui un enfant. Est-ce que vous pouvez, Dominique, nous la décrire mieux que je ne le fais, et puis nous la commenter?
Oui, c'est un personnage debout, c'est un adulte assez jeune.
Assez haut, je crois.
Il n'est pas immense. La première fois que je l'ai vu, moi, je l'avais vu en représentation et figuré depuis très longtemps, et j'étais absolument stupéfait de voir qu'il n'est pas si grand que ça. Il fait peut-être de l'ordre de 1m30, à peu près.
1m40,
oui. C'est déjà une bonne pièce, hein, sincèrement.
Ah oui, c'est déjà une bonne pièce, mais par rapport à tout ce qui l'entoure, il paraît presque petit parce qu'il est dans un. Il représente. Alors, c'est une pièce qui est connue depuis longtemps. Il y en a une autre un peu du même genre qui. Et alors, on l'a appelée depuis sa découverte l'adolescent Ouastek. Alors, c'est une pièce qui doit être du 14e, 15e siècle, probablement très tard, juste un peu avant l'arrivée des Espagnols. Et effectivement, c'est un personnage masculin. Sexe bien marqué, debout, avec bras repliés et totalement, le corps, pas totalement, mais largement recouvert de tatouages avec des signes qu'on reconnaît, comme par exemple, il y a des épis de maïs stylisés, il y a des perles de jade aussi, probablement, stylisées sur son corps. En fait, c'est une représentation d'un personnage en totalement associé à la fécondité, à la fertilité, quelque chose comme ça. Il a le crâne extrêmement déformé. Son nez a disparu, mais on peut supposer que, comme tous les Ouastèques de son époque, il avait le septum nasal percé, puisque c'était un signe de beauté dans cette civilisation-là. Et c'est vrai, il a dans le dos, il porte dans le dos, dans un petit textile qui porte un nouet sur le devant des épaules, un petit personnage. Et un petit personnage qui, dans son cas, paraît être vivant. Ça paraît être un adulte en miniature, en réalité. Alors ça marche très bien par rapport à l'interprétation qu'on donne. C'est qu'on sait parfaitement qu'il y a beaucoup de civilisations préhispaniques depuis longtemps, de cette partie-là du continent, bien entendu, qui considère que l'homme, au moment de sa mort, se nanifie. Ça devient un petit être, et il rejoint le monde des morts sous la forme d'un petit être. Et donc, avoir dans le dos quelqu'un qui paraît quasiment un adulte, quand même, dans son cas, mais à dimension extrême. C'est pas un enfant, il n'a pas du tout une tête d'enfant. Ça nous met probablement sur la piste de... c'est un personnage qui vient du monde des morts. Or, il se trouve que encore actuellement, enfin, je veux dire, je parle des années 80 du 20e siècle, les ethnologues travaillant dans cette région-là, en particulier dans le monde Totonac, qui est le voisin des Ouastèques, ont des mythes où on nous dit que le dieu du maïs, content de son sort, régnant sur le monde, avait un souci, c'est qu'il savait que son père était mort et qu'il était mort avant de connaître la civilisation et l'époque néolithique, l'époque où l'on cultive et où on a toute l'abondance dont on peut disposer. Et le mythe, évidemment, qui n'est pas du tout raconté comme ça par les Totonacs, dit « Il est allé dans l'inframonde, il a récupéré son père, il l'a ramené sur Terre pour lui montrer ce qu'était la vraie civilisation. » Le père en question ayant vécu à une époque antérieure, c'est-à-dire celle de la chasse, de la pêche et de la cueillette.
C'est extraordinaire, cette l'idée qu'on aille chercher son ancêtre qui était chasseur-cueilleur pour lui montrer la réussite du monde néolithique.
Oui, mais ça n'a pas marché. C'est ça aussi qui est très beau, c'est qu'il le ramène sur Terre, il lui montre tout ce qui existe, tous ces champs qui donnent la nourriture dont on a besoin à toute l'humanité, et le père ne supporte pas en réalité, oui. Et il s'enfuit, il est transformé dans certaines versions du mythe en cerf. Il redevient un cerf qui retourne à la vie sauvage.
Oui, dans la forêt.
Voilà, dans la forêt.
Sincèrement, je partage l'avis de l'ancêtre. Je pense que le paléolithique, c'était beaucoup mieux. Comme il nous reste que quelques minutes, c'est le moment de parler du temps. Et Steve, une des choses extraordinaires dans l'exposition, on se rend compte que ce peuple qui n'avait pas la roue, qui avait une sorte de savoir très extraordinairement sophistiqué d'un côté, extrêmement limité de l'autre, a fait une comptabilité du temps extraordinaire.
Oui.
En peu de temps, faut nous le dire.
Oui. Disons que durant la période tardive des Olmèques, c'est-à-dire la période des Pi-Olmèques, au site de Trezapotes, on a trouvé les évidences de l'utilisation d'un système calendaire, un système de calendrier qu'on appelle le comptelon. Le comptelon est essentiellement un système de chiffrier, c'est-à-dire on part d'un moment zéro et on compte les jours jusqu'à la période d'aujourd'hui, disons. Donc, le comptelon est peut-être des Olmèques et peut-être celui aussi qu'on retrouve chez les Mayas. Du moins, c'est de cette façon-là qu'il a été analysé, c'est-à-dire un comptelon qui débute dans une période très ancienne, à autour de 3114 avant Jésus-Christ et qui va jusqu'à aujourd'hui. L'importance, surtout, de contrôler le temps, c'est pour une société complexe, le contrôle du temps permet le contrôle des gens. Ça permet de fixer des rendez-vous, ça permet de fixer les rituels, ça permet de dire aux gens à telle date, vous venez à tel endroit pour telle activité. Et ceci est vraiment, à mon avis, à la fin de la période Olmèques, l'un des grands cadeaux, je dirais, qu'a fait les Olmèques aux sociétés subséquentes, c'est-à-dire la capacité d'organiser le temps, d'organiser l'espace, et aussi de codifier à travers une forme d'écriture la pensée. Donc, ces éléments-là vont devenir vraiment les éléments constituants de la Mésoamérique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mon collègue Dominique a travaillé toute sa carrière dans ce monde contrôlé par le temps, par le comptelon. Et il semble que c'est les Olmèques qui nous l'ont donné finalement.
Mais il y a, Dominique, je peux rajouter juste, il y a effectivement, grâce à ce système du comptelon, la possibilité de faire une précision, une comptabilité précise des événements. Mmh. Mais comme c'est quand même un temps cyclique, parce que vous calculez les jours, mais vous calculez les vingtaines de jours, les quatre centaines de jours, etc., vous avez dans ce domaine cyclique aussi la possibilité de mettre en place des rituels et d'avoir effectivement cette idée de la cyclicité du temps qui passe, qui n'est pas qu'un temps événementiel.
Et justement, le fait que ça soit cyclique, on doit garantir le retour du cycle.
Bien entendu.
Tous les sacrifices,
exactement,
c'est le retour du cycle.
Exactement.
Dominique Michelet, merci infiniment. J'étais très heureux de vous entendre sur ce sujet absolument fascinant. Steve Bourget, bravo pour cette exposition qui est absolument merveilleuse. Les énigmes, les mystères et les secrets sont tellement excitants.
Merci beaucoup.
La matière, c'est la vie aussi.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper, comme des mouches, quand elles passent. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent.
Parce qu'on veut transformer la vie pour un moment.
C'était l'art et la matière par Jean Deloisy en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, j'ai reçu Steve Bourget, le responsable des collections Amérique au musée du Quai Branly Jacques Chirac, et Dominique Michelet, archéologue, mayaniste et directeur honoraire de recherche au CNRS. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. Une émission conçue en collaboration avec Seam Boutata. Merci Seam. Lecture des textes, la belle voix d'Hélène Losseur. Prise de son, Manuel Couturier. Et réalisation, évidemment, Thomas Jost. Et dans quelques instants, Jukebox par Amaury Chardot. Bon après-midi sur France Culture.